Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
Les vrais enjeux, les vraies questions.
Alexandre Dubé.
Francis Gosselin est économiste. Salut Francis.
Salut Alex.
Alors, des surplus vraiment un peu étonnants là, pour Ottawa. C'est-à-dire que quand on regarde le portrait de la situation, on s'aperçoit que les déficits sont peut-être moins pires que ce qui avait été prévu cette année pour le fédéral.
Effectivement, c'est une plutôt bonne nouvelle là, qu'on a appris ces jours-ci. Donc, comme tu sais, l'année financière du gouvernement fédéral est de avril à fin mars, là, donc du 1er avril au 31 mars de chaque année. Donc, on est toujours à cheval sur deux années. Donc, le mois d'avril et le mois de mai sont les deux premiers mois de l'année financière du gouvernement fédéral. Et on apprend qu'ils auraient engrangé un surplus de 5,3 milliards de dollars, ce qui contraste quand même avec ce qu'on nous avait un peu laissé entrevoir, là. Le budget déposé le 7 avril dernier par la ministre Chrystia Freeland évoquait le budget tel qu'il était présenté, un déficit assez important là, de 50 milliards de dollars. Donc, ce surplus pour les deux premiers mois laisse quand même entrevoir que le gouvernement pourrait, comme je viens de le dire, nous endetter moins que prévu. Mmh. Donc, il y a certainement des dépenses à venir là, dans les prochains mois qui vont nous permettre qui vont finir par créer un déficit. Mais selon les analystes, là, ce déficit-là, plutôt que d'être de l'ordre de 50 milliards, il pourrait être plutôt de l'ordre de 16 milliards. Donc, c'est quand même une assez bonne nouvelle, toute proportion gardée.
Oui, puis c'est pas la tendance que M. Trudeau nous a habitués dans les dernières années. Bon, je comprends qu'il y a eu la pandémie aussi qui est venue troubler les finances du Canada, mais quand même, là, on n'hésitait pas à mettre ça sur la carte de crédit.
Non, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Puis j'espère que le gouvernement Trudeau et tous les gens là, qui travaillent au ministère des Finances, là, qui sont pilotés par Mme Freeland, vont prendre bonne note que là, après 327 milliards de dollars en 2020-2021, ça c'était la première année de la pandémie, on le dira, mais quand même encore 113 milliards là, dans l'année qui vient de se terminer. Je pense qu'il est peut-être temps de revenir à une forme d'équilibre budgétaire, voire même de rembourser un peu là, de cette dette qui a été accumulée. Je regardais ça, Alexandre, là, depuis 2011, là, ça fait 10 ans, donc c'est plusieurs gouvernements, là, on va se le dire, mais la dette canadienne a quand même doublé de 500 milliards à près de 1 trillion de dollars. En même temps, la bonne manière d'exprimer ça en économie, en tout cas, c'est toujours en proportion du PIB, là, donc on appelle ça le ratio de dette sur PIB. Celui-là a aussi beaucoup augmenté, et il a surtout beaucoup augmenté depuis 2 ans. Là. Donc, c'est là-dessus qu'il faut garder un œil. T'sais, avoir des dettes dans la vie, c'est pas très grave. Si tu as une grosse maison, puis un beau revenu, puis tout ça. Mmh. Le problème, c'est comme là, on se prépare à des temps peut-être un peu plus, ralentis, là, pour pas dire de récession. Ben, c'est là où, idéalement, il faudrait qu'on ait un peu de vieux gagné, mais semble-t-il, on l'a déjà tout dépensé.
Oui, non, c'est ça. Puis, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Avec ce qu'on vit, là, l'insécurité économique, il y en a qui parlent de récession à venir, l'inflation qui est très élevée, est-ce que ça a un effet bénéfique ou au contraire, ça empire la situation, l'inflation?
Ben, ça dépend de quel point de vue. Donc, du point de vue des gouvernements, l'inflation, c'est génial parce qu'en fait, ça permet d'atténuer vraiment rapidement l'impact de leur dette. Ça fait l'inflation, ce que ça fait dans les faits, là, tu sais, ton dollar, il existe encore, mais il est déprécié. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, quelqu'un qui gagnerait un salaire de 50 000 $ par année, ben, son pouvoir d'achat est moins grand. Donc, on déprécie, si tu veux, la monnaie. Mais le gouvernement canadien qui a souscrit à 1 milliard de dollars de dette, ben, si tu déprécies la monnaie, lui, il gagne beaucoup plus d'argent parce que les salaires sont plus élevés, les taxes sont plus élevées sur des prix plus élevés, etc. Donc, il y a beaucoup plus de revenus sur une dette qui, elle, est toujours la même en dollars réels. Et donc, c'est une très bonne façon, entre guillemets, pour les gouvernements de réduire le fardeau de la dette, c'est, entre guillemets, de provoquer de l'inflation. Après, quelqu'un doit la payer, cette différence-là, puis certainement que ce sont les contribuables qui finissent sans mettre la main à la poche. Donc voilà, c'est bon pour le gouvernement, un petit peu moins bon pour ceux qui financent les gouvernements, c'est-à-dire vous et moi.
Voilà, nous. Intéressant. Dis-moi, le point sur cette rencontre de l'OPEP où les exportateurs de pétrole vont devoir définir une nouvelle stratégie pour l'or noir.
Exactement. Ben, tu sais, comme je veux dire, quoi qu'en dise l'OMS, là, tu sais, l'Organisation mondiale de la santé, du point de vue des exportateurs de pétrole, la pandémie, elle est bien terminée. Comme on l'a vu de la demande pour les produits pétroliers, c'est-à-dire que les gens qui se déplacent, qui prennent des avions, des voitures, etc., est vraiment revenu là, à son niveau là, d'avant la pandémie. Et donc là, ça a forcé un petit peu le jeu, évidemment, du point de vue des producteurs, des exportateurs, à renouer avec les niveaux de production d'avant la pandémie. Et là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hier, là, en prévision de la rencontre qui a lieu aujourd'hui à Vienne, en Autriche, le baril de pétrole de Brent, là, qui est un des barils de référence, oui, est passé brièvement sous la barre des 100 $. Il avait été à 100 $ en juin. Il était remonté à taux de 110 $ et il est donc retombé là, depuis deux jours à 99 $. Là, ce matin, quand j'ai vérifié, était à 101, mais en tout cas autour de 100 $, ça pour dire. La grande question pour les pays de l'OPEP plus, là, on appelle l'OPEP plus parce que c'est l'OPEP d'origine plus quelques pays, c'est de déterminer si on veut maintenir ou augmenter légèrement la production. Toujours avec cette idée un peu que ces gens-là, ils forment un cartel, Alex. S'ils restreignent la quantité, ben les prix vont augmenter, donc ils vont faire plus d'argent par baril en tout cas. Mais en même temps, ils sont pas certains s'ils veulent réduire ou augmenter. Donc c'est un petit peu ce qui va être discuté. La plupart s'entendent sur le fait qu'il va probablement avoir une légère augmentation. Le problème étant que même si on décrétait qu'on doublait la quantité de pétrole produit, ce qui serait possible, je pense théoriquement, le problème c'est qu'il faut l'exploiter, ce pétrole-là. Donc il y a des enjeux de logistique, il y a plusieurs pays avec des, comme nous, des enjeux de main-d'œuvre, etc. Donc c'est même pas, si on augmentait les quotas, c'est pas certain qu'on pourrait les atteindre. Donc c'est un petit peu de tout ça, je pense, dont il va être question. Ce qui fait que c'est une rencontre un peu extraordinaire, là, je dirais, là, pour l'OPEP. C'est aujourd'hui que ça se fait à Vienne.
Ouais, et avec des conséquences importantes. Un mot en terminant sur c'est quoi ça, le tourisme de revanche?
C'est une expression que je travaille avec quelques hôteliers, le Côte-Germain, et ça. Le tourisme de revanche, c'est cette idée que depuis deux ans, on était comme assigné dans son sous-sol avec un bas de pyjama. Ah, là, le tourisme de revanche, c'est quand que ça va finir cette petite pandémie, okay. Alexandre, je vais aller à quelque part.
OK, on s'en reprend.
Tous les jours. Donc, le tourisme de revanche, c'est un revenge tourism. Ouais.
On se revanche sur la pandémie, pour tout ce qu'on a manqué. Exactement. Là, je comprends. OK.
C'est pas, on va pas faire des assassinats dans d'autres villes. Donc, tout ça pour dire, le tourisme de revanche, c'est une expression, mais là où je veux en venir avec ça, c'est que c'est Airbnb qui a annoncé hier ses résultats pour le deuxième trimestre 2022, et c'est un excellent résultat. Airbnb qu'on connaît, là, qui est une plateforme de location de résidences privées à court terme, et on a annoncé avoir fait 2 milliards de dollars de ventes, ce qui est à peu près constant là, par rapport à la pandémie. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont fait 379 millions de dollars de profit. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Évidemment, Airbnb, comme tous les hôteliers et autres opérateurs, là, ont connu une forte baisse. Donc, par rapport à l'an dernier, c'est une augmentation de 58%. Donc, on voit vraiment Airbnb là, qui reprend un petit peu de son volume là, traditionnel. Ils ont expliqué là, dans le communiqué qu'ils avaient reçu 100 millions de personnes là, qui avaient réservé des chambres là, pendant le trimestre. C'est quand même, c'est pas... nous ne sommes pas que 2-3.
Non, visiblement.
Et ils ont aussi annoncé, puisque tu sais, ça prend toujours quelques semaines, voire quelques mois, de préparer les états financiers. Donc, c'est en moment à la fin du trimestre, c'est le 30 juin. On reçoit les résultats, ils en ont reçu les résultats hier. Ils ont dévoilé aussi, donc en même temps qu'ils publiaient ces résultats-là, que le 4 juillet, qui est dans le fond dans le troisième trimestre, ça avait été leur meilleure journée de leur histoire en termes de vente.
Ah, oui.
Donc, ça allait être présagé qu'Airbnb va avoir quand même un bon troisième trimestre si on se fie à cette journée record du 4 juillet. L'entreprise était entrée en bourse bizarrement en 2020 pendant la pandémie. Ils avaient besoin de financement là. L'action était rentrée de mémoire à autour de 135 $. Elle a quand même beaucoup monté autour de 200 US avant finalement de retomber là, depuis le début de cette année. Vraiment très bas, à 95 $ US l'action, mais c'est un peu lié au fait que tous les titres technologiques en ce moment sont un peu déprimés, là, les Facebook, les Google, les Amazon et tout. Depuis le début du mois de juillet, là, comme on pressentait que ces bons résultats-là s'en venaient, l'action a pris plus de 20%, là, donc c'est rendu autour de 116 $ ce matin.
Quand même. Merci beaucoup, Francis.
Je t'en prie, demain, oui. Il reste des jours à la semaine.
Il en reste deux. On lâche pas. Il en reste deux. Salut, Francis.
Salut, Alex.
Merci à vous d'avoir été à l'écoute encore aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui a permis la production de cette émission-là. Vincent Dessureau suit à l'instant. Je vous retrouve demain dès 10 heures.